Donc d'abord, on va faire Genèse, pardon, excusez-moi. Genèse chapitre 12, et on lira les deux premiers versets. Et après, on ira dans Jean. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et maintenant, l'évangile de Jean, au chapitre 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 13, on va lire plusieurs versets, c'est une lecture qu'il faut faire, je pense, dans son entier. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. D'autres versions disent il les aima jusqu'au bout. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi, Simon, pardon. Oh, excusez-moi, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur. » Mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux afin que vous les pratiquiez. » Amen. Et on va lire le verset 34 dans le même chapitre. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus, notre modèle. Quand tu as prié tout à l'heure, Julien, c'est ce que tu as dit et c'est ce qu'on a chanté. Nous marchons tous à ta suite, selon finalement ce qu'il est, notre modèle. Et il dit, faites comme je vous ai fait. Et ça, c'est un principe divin. Il veut nous bénir, il veut nous remplir, pour qu'à notre tour, comme on l'a lu dans Genèse tout à l'heure, je te bénirai et je ferai de toi. Alors ton nom sera grand et tu seras en source de bénédiction pour les autres. C'est le but du Seigneur Jésus. Jésus, notre exemple, notre modèle parfait. Gandhi, je ne citerai que lui, et après ça en suffira, il a juste dit, l'exemple n'est pas le meilleur moyen pour convaincre, c'est le seul. La puissance d'un exemple dépend de deux choses. De l'attrait même de cet exemple et de l'influence individuelle de celui qui donne l'exemple. Dans ce texte-là, que j'ai lu et relu et re-relu, il y a tout ça. Il y a l'attrait de l'exemple et il y a l'influence de Jésus qui donne l'exemple à ses disciples. Il le fait pour une seule raison. Il le fait simplement pour que nous soyons heureux. Pour le contexte, qui est très important ici, on est au dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant la crucifixion. Et dans ce chapitre, il n'y a pas tout. Mais les évangiles, que ce soit l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc, rapportent d'autres détails qui ont lieu dans cette même circonstance. Là, ce n'est pas écrit. Mais quand on lit l'évangile de Luc au chapitre 22, et du verset 24 au 28, et dans Marc 10, de 35 à 45, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, Jésus, là, il sait que son heure est venue. Il sait que c'est la fin. Il sait qu'il va aller à la croix. Il est conscient du moment qu'il est en train de vivre. Il est conscient que c'est son dernier repas aussi, avec ses disciples qu'il a tant aimés, qu'il a conduits, qu'il a guéris, qu'il a aidés, qu'il a supportés, qu'il a encouragés. Il est conscient de ça. Et il est aussi conscient que, eh bien, dans ces derniers moments, il va aller vers son Père. Il est conscient de sa divinité, de sa toute-puissance, de son autorité, de sa sainteté. Et je pense que les disciples, quand on le voit dans Marc et dans Luc, ils étaient en train de se dire, les Jacques et Jean, fils de Zébédée, en train de se dire, tiens, Jésus, on va te poser une question. Est-ce que tu crois que c'est possible d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand on sera dans le ciel? Et pareil, pendant ce repas, il y a un peu une contestation qui s'est élevée entre les disciples, de dire qui est le plus grand finalement. Et puis au milieu de ses disciples, il y a Judas aussi. Il y a Judas qui va trahir Jésus, et ça, Jésus le sait. Il en est pleinement conscient. Et il sait aussi que derrière, il y aura le reniement de Pierre. Il sait tout ça. Il est avec tous ses disciples. Le contexte, lui, il l'a bien ancré dans sa tête. Et des fois, en regardant ses disciples, je me dis, mais est-ce qu'on considère vraiment aussi, nous, dans le temps qu'on passe avec Jésus, quand on est ensemble, quand on est en communauté, quand on est seul, dans nos maisons, dans notre lieu secret, quand on prie le Seigneur et qu'on passe un moment d'intimité avec lui, comme le faisait Jésus là avec ses disciples, est-ce que, dans nos cœurs, il y a peut-être ces pensées-là aussi. Peut-être de se dire, c'est qui le plus grand? Voilà, des choses qui peuvent ressembler à ça, pas forcément exactement les mêmes discours. Mais je crois que, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, est-ce que ton cœur, quand tu es devant le Seigneur et que c'est là un moment que le Seigneur aime avoir avec toi, en fait, et il aime ça, les moments d'intimité avec nous, et il faut les chérir et nous en nourrir au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ces moments? Est-ce que nos pensées, elles sont accaparées par ça? Est-ce que, finalement, on le verra après, on a la pensée? C'est un peu le titre que j'ai voulu donner à cette parole, c'est « As-tu la pensée de Christ dans ton cœur ?» Et on le verra après dans les Philippiens, ce que c'est vraiment la pensée de Christ. Et donc Jésus, conscient de tout ça, il reprend à un moment donné ses disciples quand il leur pose la question, est-ce qu'on pourrait être assis à droite, à gauche, est-ce que c'est qui le plus grand? Il leur dit, mais le plus grand finalement, c'est celui qui sert. Et il joint le geste à la parole. Parce qu'en fait, au-delà de dire ça, à un moment donné dans le repas, il va se lever, mais il ne va pas se lever pour rabrouer tout le monde, pour défendre sa cause, pour affirmer que c'est moi Jésus. Est-ce que vous avez conscience de qui je suis? Je suis le Fils de Dieu, je suis le Tout-Puissant. Ça, il a déjà eu cette conversation avec ses disciples et ils avaient conscience de qui était Dieu. Pas besoin encore de leur faire ce grand rappel à coup de grands discours. Il ne se lève pas pour ça. Il ne se lève pas pour les rabaisser, pour leur dire « vous n'avez rien compris ». Vous êtes vraiment fatigué. C'est vraiment le moment de pinailler. C'est vraiment le moment de se disputer pour savoir c'est qui le plus grand. C'est le dernier repas qu'on fait ensemble. Je vais aller à la croix et voilà ce qui se passe. Non, ce n'est pas les paroles de Jésus, ça. Jésus, il ne dit rien. Il se lève et il prend un linge pour laver les pieds de ses disciples. Le linge, c'est le symbole du service. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Dans l'époque dans laquelle vivait Jésus et ses disciples, il y avait ce rituel, cette tradition, appelons ça comme on veut, mais de laver les pieds des gens qui venaient parce que dans la poussière des chemins, on se salissait souvent les pieds, donc il fallait enlever ses sandales et avant de passer à table, pour être propre, se laver les mains et se laver les pieds. Mais ça, c'était la tâche des esclaves. Ce n'était pas les disciples, c'était la tâche des serviteurs de maison de s'abaisser et de faire ça. Là, Jésus va prendre ce linge. Symbole du service, symbole finalement de l'abaissement dans ce, on dira, serviteur esclave. Et ce linge, maintenant il est entre les mains de celui à qui le Père a remis toute chose. Toute plénitude de la divinité se trouve en lui. Et pourtant il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Et on vient de le voir, de quels disciples? d'un traître, de gens un peu fougueux, de gens qui n'ont pas les mêmes pensées que Jésus à ce moment-là, des gens qui n'ont pas forcément tout compris. Mais ce n'est pas grave. Il va faire cet acte d'abaissement volontaire aux yeux de tous et de manière très pratique pour les disciples. Pour eux, ça voulait exprimer quelque chose. C'était un symbole clair. Ce n'était pas quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'était très clair. Et il y a une chose aussi importante à noter, c'est qu'il n'a pas lavé les pieds d'autres convives. Il n'a pas lavé les pieds d'autres personnes. Devant les disciples en disant, regardez, je fais ça, je lave les pieds des gens, ben vous, il faudra le faire aussi. Lui, il a lavé les pieds des propres disciples, des disciples eux-mêmes. Pour leur montrer et pour pouvoir leur dire ensuite, faites comme je vous ai fait. C'est fondamental de le souligner parce que ben, c'est ce que Jésus fait pour moi, qui une fois que je vais vraiment en être pénétré en profondeur, pas de manière juste superficielle, Jésus il a fait ça, Jésus il a fait comme ça, Jésus il m'a sauvé. Il y a des fois, on le dit vite, on en est conscient, et merci Seigneur pour le salut, pour la croix, pour l'œuvre rédemptrice, mais que ces choses, il faut vraiment qu'elles pénètrent toujours un peu plus en profondeur. Et dans la compréhension de ces choses, si elle grandit dans notre cœur, ça nous donnera la force de faire de même pour les autres. Au plus, l'exemple de Christ va s'ancrer dans nos cœurs à nous, par rapport à ce qu'il a fait pour nous, au plus on va le comprendre, au plus, ben, finalement, c'est cette puissance de vie qui va rejaillir, et on pourra faire ni plus ni moins ce qu'a fait le Seigneur pour nous. C'est ce qu'il nous dit, comme je vous ai fait. Les paroles, elles sont claires. Jésus s'est abaissé pour nous bénir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme on l'a lu, afin que nous soyons une source de bénédiction ensuite pour les autres, toujours en nous rappelant, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde jusqu'à où je suis allé pour toi. C'est écrit au premier verset, Jésus a mis le comble à son amour pour eux. On aurait pu dire, mais le comble de son amour pour eux, c'est la croix. Bien sûr, c'est le plus grand des sacrifices. Il a donné sa vie. Il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous. Mais c'est écrit là dans Jean 13. Il a mis le comble à son amour. Il les a aimés jusqu'au bout. Et ce qui fait la grandeur de notre Sauveur, c'est justement qu'il s'est abaissé. Ça, c'est le secret, et qu'on puisse le garder dans nos cœurs. C'est le secret de la vraie grandeur, et c'est le sillon qu'il veut tracer dans nos cœurs pour qu'on puisse ensuite emprunter le chemin. On a chanté tout à l'heure, à toi nos cœurs, nos vies. Nous marchons tous à ta suite. C'est une vraie prière. C'est un très beau cantique, et je le chante de tout mon cœur. Mais je veux aussi le chanter chaque jour en considérant ce que ça veut dire, marcher à la suite du Seigneur. Est-ce qu'on a la pensée de Jésus en nous ? Dans Philippiens 2,5, je vais le lire pour vous. Et vous le connaissez, ce texte, ce n'est pas des nouveautés. On va lire à partir du verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 5, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a une version que j'ai à la maison en lisant La Colombe, c'est ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. La pensée de Jésus-Christ, c'est tout simplement cette pensée d'humilité. Mais c'est aussi écrit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça s'applique à nous, chrétiens, nous, disciples. Le repas de Jésus, il est avec des disciples, avec des croyants, des gens qui ont conscience de qui est Jésus, qui ont eu cette rencontre avec le Seigneur. Il s'adresse à des croyants. Dans l'église de Philippe, ça va plus loin que la simple communauté de l'église. C'est ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et considérez les intérêts des autres. C'est pas que les autres chrétiens, c'est déjà ça, mais c'est aussi les intérêts des autres qui sont dans le dehors, et de réfléchir que peut-être il y en a dans la vie, dehors, qui ont des vies compliquées, qui n'ont pas reçu une éducation comme nous on a reçu, qui n'ont pas eu peut-être les mêmes chances, on va dire, au démarrage. Moi, je le vois tous les jours avec les enfants. C'est, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la choucroute que je dis Boudjila, mais vous allez voir que si, en fait. C'est qu'en en fait, on ne part pas tous avec la même condition. Sur la terre, la ligne de départ, elle commence tous au même endroit. Mais par contre, on n'a pas tous le même sac sur le dos quand on commence la course. Et ben, considérer les intérêts des autres et considérer l'autre au-dessus de moi, ça veut aussi considérer celui peut-être qui est plus en décalage avec moi, qui est par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à l'éducation même, par rapport à la Bible, à toutes ces choses. Et ben, peut-être que si ces gens avaient reçu la même éducation de moi, ils seraient meilleurs que moi. Ils seraient meilleurs que ce que je suis actuellement. Peut-être que s'ils étaient partis avec les mêmes cartes que moi dans le jeu de la vie, disons ça comme ça, ils seraient peut-être au-dessus de moi. Et dans ce cas-là, on dirait c'est peut-être à lui de considérer mes intérêts, mais le fait est que ce n'est pas maintenant. Donc, ça veut dire tout ça. Mais Jésus, il aime l'humanité entière. Jésus, il aime mon frère. Jésus, il aime moi, il aime mon frère, il aime ma sœur, il aime ceux qui sont dans le monde. Et moi, je veux apprendre à considérer les intérêts de tout le monde. Pas juste les miens, pas juste ceux de ma famille. Si on élargit le cercle de ceux avec qui peut-être je vais avoir une affinité, si on élargit encore le cercle de ceux avec qui j'ai peut-être un peu moins d'affinité, avec qui c'est compliqué, de ceux, etc., etc., de ceux avec qui j'en ai pas du tout, de ceux qui me mettent en colère, de ceux avec qui j'en ai rien à faire. Mais réfléchissons à tout ça, parce que ça a un impact. Avant son départ, là, ce que Jésus, en définitive, une nouvelle fois, plein de douceur et de compassion, jamais pour casser, jamais pour faire du mal, jamais pour dire mais vous avez vraiment rien compris. Voyez ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas humble, vous êtes, ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Il veut faire pénétrer dans leur cœur, il veut le faire infuser cette mentalité de l'amour agapé en eux. C'est sa seule motivation avant de partir. Et ça, la preuve en est Jean 17. Pendant le temps de prière, je l'ai noté ce verset, mais c'est revenu en boucle, en boucle, en boucle. La prière que Jésus fait à son Père avant de partir. Il leur dit dans Jean 13, vous comprenez pas ce que je suis en train de faire. Après, il leur dit, est-ce que vous avez bien compris? Mais il dit à Simon, tu comprends pas, mais tu comprendras plus tard. Plus tard, tu vas comprendre. Ça prend du temps. Mais Jésus, il demande au Père. Jean 17. On va lire ça parce que... Tout ça. Jean 17. On va lire le verset 11. C'est bien de la... Je ne vais pas être trop long, donc je ne vais pas tout rentrer dans le détail, verset par verset. Mais relisez-la à la maison. Prenez le temps de vous arrêter sur cette prière parce que ça nous imprime. Et ça va vraiment faire descendre dans nos cœurs ce que c'est la pensée de Christ, ce que c'est la mentalité du ciel, ce que Jésus il veut pour nous en fait, et ce qu'il demande au Père pour nous. Verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et je vais lire avec vous le verset 26, de 20 à 26, pardon. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui m'ont connu, ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je ne sais pas si on considère vraiment ce que Jésus est en train de dire, en fait. Il parle à son Père. Jésus, c'est celui qui intercède en notre faveur de manière permanente et jusque dans l'éternité. Et là, il prie, et sa prière, elle continue. Il prie pour qu'on soit un, les uns les autres. Pour qu'on soit un, non seulement les uns les autres, mais qu'on soit un avec ceux aussi qui vont arriver, parce qu'ils croiront au témoignage de l'amour des disciples qui nous a unis et qui croiront à la parole de Jésus. Et nous, c'est juste un canal, mais ce qui est important, c'est qu'ils croient en Christ. Il veut qu'on soit tous un, comme lui et le Père étaient un. Je ne sais pas si on a jusqu'à où ça va. Le Père et le Fils parfaitement un. Ça, moi, ça me dépasse. Je n'arrive même pas à réfléchir et à comprendre ça. Mais je sais que c'est déjà gigantesque. Et je me dis que je suis tellement loin de ça. Avec vous, avec déjà Jésus et moi. Moi avec vous et avec le monde. Jésus, il y a quelque chose aussi. C'est qu'il est toujours exaucé. Tu m'exauces toujours. Il l'a dit. C'est écrit. Donc si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un problème, et ce problème, ça vient forcément de moi en fait. Ce qui bloque cette bénédiction, ce qui bloque l'unité finalement, que l'unité soit plus grande, qu'elle soit réelle, qu'elle soit sincère. Le seul obstacle à la bénédiction, moi je vais me regarder dans une glace et me dire, le seul obstacle à la bénédiction, en fait déjà, premièrement c'est moi. Et régler ce que j'ai à régler devant Dieu. Dans cette communion, dans cette intimité, que ma prière, ça soit ben Jésus, ouais, que ta pensée, elle s'imprime vraiment dans mon cœur, que ton amour, ça soit vraiment cet amour dont tu m'as aimé, il puisse naître et être de manière permanente, à grandir dans mon cœur. Et ce que je veux pour moi, je veux le vouloir aussi pour mes frères. Parce qu'en fait, si je le veux pour moi, si chacun, on le veut pour nous, en fait, moi plus toi, plus toi, plus toi. Plus toi, ça va faire nous, ça va faire l'Église. Parce que c'est quoi l'Église ? L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est nous ensemble. C'est juste des pierres vivantes qui s'assemblent avec la grâce de Dieu pour construire un édifice qui se coordonnera correctement parce que le Saint-Esprit va tout mettre en place, parce qu'il va agir, parce qu'il va conduire, parce qu'il va parler, parce qu'il va reprendre quand il le faudra. Mais si les pierres vivantes, elles sont attachées, elles sont taillées comme le modèle. Mais en fait, ça ne peut que marcher. Oui, ça prendra du temps. Oui, il y aura des frottements. Oui, il y aura des difficultés. Mais ça marchera. Ça marchera parce que c'est la prière de Jésus et parce que Jésus est toujours exaucé. Si moi, je fais ma part, Jésus l'a déjà fait sa part. Et Jésus, il n'attend qu'une seule chose. C'est que il veut rentrer dans nos cœurs. Parce que nos mains, elles savent... Les mains de Jésus, elles ont pris le linge. Nos mains, à nous... Eh bien, je pense que voilà, maintenant, il va falloir qu'elle prenne ce linge aussi. Parce que des fois, on a vite fait de feuilleter la Bible, d'avoir des versets. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vous le dis. Voilà, j'ai rien de... On n'est pas là pour mettre des masques ou pour faire semblant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations dans la tête, de penser à des personnes, à des trucs qui me chiffonnaient un peu. Et finalement, de chercher des fois dans la Bible, de lire, de regarder, de dire « Ah, tiens, ce verset, ça serait bien pour lui ». Ça lui ferait du bien quand même d'entendre ce genre de truc. Mais en fait, je ne manie pas l'épée de l'esprit comme il faut. Là je la manie pour blesser, pour faire du mal. Ça m'arrangerait bien qu'il souffre un peu. Et ouais, est-ce que finalement, quand je suis devant Dieu, en fait, ouais, c'est difficile avec ce frère, c'est difficile avec cette sœur, c'est difficile avec cette situation. C'est compliqué. Mais en fait... Je ne veux pas regarder à moi, je ne veux pas regarder à... Mais je veux simplement me dire que oui, ça peut être possible, en fait, d'aimer les autres comme toi. Mais comment ? Comment ? Comment on fait ? Comment on avance dans ce sillon-là ? Il y a la réponse dans Jean 12. Ce qui est bien avec la Bible, c'est quand on se pose des questions. J'ai déjà dit la dernière fois, je crois ça, mais je m'en pose bien beaucoup. Donc, en fait, j'ai toujours les réponses derrière. Donc, c'est ça qui est bien. Jean 12... 20. On est toujours un peu dans le contexte. Ça ne sort pas du contexte. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, et Philippe, pardon, le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Le nom de notre Père sera glorifié. Si on garde dans nos cœurs cette idée-là, que le grain de blé, s'il ne meurt pas, le grain de thé qui est jeté en terre, c'est important. On a tous été mis en terre. Quand on a reçu l'amour de Dieu dans notre cœur, quand on a compris la croix, quand on a accepté le salut de Jésus, on a tous été mis en terre à un moment donné. Mais si le grain de blé qui a été mis en terre, il ne meurt pas vraiment, parce que Paul, il en parle dans Romains, c'est une étude longue et il y a beaucoup de choses à en tirer, mais il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est une chose d'être crucifié, d'avoir été mis en terre, et c'est autre chose d'être mort pour de vrai. C'est pas la même chose. Quand Jésus, il a été crucifié, il n'est pas mort tout de suite. À la croix, il y a une puissance de vie qui s'est manifestée, une puissance glorieuse. Les sépulcres se sont ouverts, le voile a été déchiré, il y a eu la résurrection. Mais avant tout ça, il a fallu que Jésus il meure, et qu'il meure complètement. Cette vie en nous, la vie de Christ, cette vie dont on parle, de ce grain de blé qui meurt, qui produit du fruit, cette vie, elle ne jaillira pas autrement que par la mort à nous-mêmes. Pour être véritablement ce disciple, il y a aussi cette dimension fondamentale qui rejoint ce dont on a parlé. Si quelqu'un veut être mon disciple, ça aussi Jésus l'a dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, on a été crucifié, mais est-ce qu'on accepte, encore une fois, chaque jour de mourir ? Est-ce que, quand, je reviens avec ça, mais un frère, une sœur, une situation, un parent, un oncle, une tante, un collègue de travail, dans telle ou telle situation, on est piqué, on est chatouillé un peu dans notre manière d'être. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ça nous paraît injuste. Des fois, c'est injuste. Ben, en fait, c'est un peu comme si le diable, il nous disait, descends de la croix maintenant. Descends de la croix et fais-toi justice toi-même. Tu as la parole de Dieu, tu ne vas pas te laisser faire quand même. Tu ne vas pas le laisser t'insulter comme ça, c'est quand même injuste dans cette situation, ce qui se passe pour toi. Toi, tu n'as rien fait, regarde de quoi on t'accuse, regarde ci, regarde ça, et regarde l'autre qui se moque de toi, et regarde, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ben, descends de la croix, fais-toi justice toi-même. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? Moi, je sais pour moi, mais la puissance de vie, elle passera d'abord par la mort. Si aux injonctions de l'ennemi, ben ouais, de descendre de la croix, de se faire justice, puis de réagir des fois aussi, avec susceptibilité, avec des murmures, des ci, des ça, dans le dos, des machins, des trucs. Ben, ça veut dire que, ouais, on n'est pas encore tout à fait mort, mais c'est pas grave. Il y a de l'espoir avec Jésus. Jésus nous aime. Jésus, lui, il a pris le linge et il nous a montré ce qu'il fallait faire. Il dit, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'arrives pas à faire tout de suite, tu vas y arriver, parce que je vais être avec toi. Par contre, il faut que tu meures à toi-même, parce que si tu ne fais pas ça, le fruit ne va jamais sortir. Si tu ne meurs pas complètement, peut-être il y a des feuilles, à un moment donné, qui vont sortir, qui vont commencer, mais ça n'ira pas jusqu'au fruit. Si les racines, elles ne s'enracinent pas vraiment, si elles ne sortent pas en profondeur dans la parole, dans la contemplation de qui est Jésus, de son œuvre, dans l'amour qu'on a pour les autres, si ça ne s'enracine pas en profondeur, bah la graine, la plante, elle ne va pas se développer vraiment. S'il n'y a pas la lumière et l'eau du Saint-Esprit, la lumière de sa parole qui vient finalement donner tout ce dont on a besoin, parce que pour qu'une graine grandisse, je ne veux pas vous faire un cours de science, hein, mais si je demande aux enfants, je pense qu'ils sont capables de me répondre. Pour qu'une graine, elle germe et qu'elle porte du fruit derrière, il faut de la terre, il faut de l'eau et il faut de la lumière. S'il manque un des trois, ça ne marchera pas. Soit elle va sortir, mais elle ne donnera pas son fruit, soit elle ne va pas sortir, soit il y aura toujours quelque chose qui manquera. Il faut tout. C'est tellement important. Ça l'est pour moi, mais ça l'est pour chacun d'entre nous, parce que ça l'est pour l'Église, en fait. Jésus, il a tellement aimé l'Église qu'il est mort pour elle. Ça, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Vous pouvez vérifier, mais je sais que vous le savez. Mais finalement, on rejoint ça, là. On rejoint ce que Jésus a fait avec les disciples. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a donné sa vie pour nous, individuellement, mais pour nous en tant que communauté, en tant qu'Église. Et celui qui est mort, Romains 6, verset 7, celui qui est mort, pas celui qui a juste été crucifié, celui qui est mort, il est libre du péché. Ça veut dire que le péché, il n'a plus d'entrave. Ce n'est pas lui qui dicte la conduite. Ce n'est pas lui qui va dicter votre réaction. C'est fini. Celui qui est mort, il est libre du péché. Pour conclure, simplement, l'exemple émouvant, puissant, grand, glorieux de ce que Jésus a fait à ses disciples, d'un tel amour, d'un tel abaissement, d'une telle humilité, ne doit pas rester comme quelque chose d'extérieur à contempler et se dire... C'est très bien, c'est beau. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Et que ça s'arrêterait là. Impossible à imiter, puisque bien au-delà de ce qu'on peut faire. Et moi, je suis d'accord avec vous, c'est bien au-delà de ce qu'on peut faire, ça. Ce qu'a fait Jésus. Mais par notre communion intime et vivante avec le Sauveur, oui, je serai transformé degré par degré, pas à pas, marche après marche, à son image. Je le pourrais faire ça, parce que Jésus, vivant en moi, tout simplement m'en rendra capable. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est lui qui va le faire en moi. C'est l'amour de Dieu pour nous qui nous indique dans quelle mesure nous devons aimer les autres. Il a donné sa vie pour nous, sa vie pour l'humanité, sa vie pour l'Église. Ce qu'il leur donne, il donne toujours la force de l'accomplir. Il nous a donné un exemple parfait et il l'a lié à un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous faites ça, alors le monde verra que vous êtes mes disciples. Et si le monde voit qu'on est les disciples, s'il voit une église où l'égoïsme, il n'y en a pas, où la chamaillerie, il n'y en a plus, où les querelles, elles n'existent pas, si le monde voit ça, il va se dire c'est un miracle. Parce que pour qu'on travaille tous dans le monde, on sait comment ça marche. On sait... comment la mentalité du monde est. C'est tout sauf l'humilité. C'est tout sauf l'abaissement. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est le moi d'abord. Et les autres, les intérêts, on verra plus tard. C'est, ah, il me manque ça, et pourquoi moi j'ai pas ça? Et des fois au détriment d'autres. Ça, c'est la mentalité du monde. Et si le monde voit quelque chose de complètement différent, parce qu'il y a les discours après. La mentalité, elle est ce qu'elle est, mais derrière, on entend aussi plein d'autres discours. Mais c'est des discours qui sonnent tellement creux. Oui, mais voilà, il faut faire tout pareil pour tout le monde, il faut être égal, il faut être comme ci, il faut être comme ça. C'est beau, ça. C'est beau, mais ce n'est pas ça dans les faits, ce n'est pas factuel, ça. Mais si les gens qui aspirent finalement, parce que je pense que c'est une aspiration profonde aussi, ce genre de discours, ils aspirent à ça, ils le voient vraiment en tant que quelque chose de factuel dans la vie des chrétiens, dans l'Église, mais ils se diront, en fait, c'est possible. Et c'est possible comment? Eh bien, voilà, Jésus, la croix, notre témoignage, il conduira vers Jésus, pas nous, Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait ça en nous. C'est pas nous, c'est pas nos forces. Qui on est, nous, pour faire ça? Personne. Les disciples, ils n'ont pas compris tout de suite la profondeur de ces choses. Il a fallu du temps pour que ça grandisse, pour que ça s'enracine, comme cette graine qui s'ouvre, qui s'enracine, qui grandit petit à petit avant de devenir un grand arbre. Un solide. Vous vous rendez compte que dans une graine, un gland, pas gros un gland, ça tient dans la poche, il y a une puissance de vie qui fait qu'au bout de longtemps, certes, mais il sort un chêne. Un chêne, si vous vous rendez compte, la force d'un chêne. Et ça tient dans un gland.
Alors oui, ça prend du temps. Et Jésus a jamais dit que ça se ferait comme ça, en un claquement de doigts. Mais si le processus, il est lancé, si le premier pas, il a été fait, si l'entretien, ensuite, il est là, l'enracinement, les soins qu'on va donner à ces choses en nous, eh bien, elles sont faites. Oui, il faudra prendre du temps. Il faudra prendre du temps pour contempler son amour pour nous. Il faudra prendre du temps pour contempler aussi son amour pour nos frères. Gardons à l'esprit, et ça, ça m'a beaucoup travaillé aussi pendant le temps de méditation sur ces versets. Prenons en conscience aussi que ce que Dieu a fait pour nous, il a fait la même chose pour tout le monde ici. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas plus aimable. De dire que oui, bon, peut-être que j'étais un peu mieux que l'autre, ou peut-être que... Non. Je veux considérer mon frère et contempler l'amour de Dieu pour mon frère aussi et pour ma sœur. Je veux prendre le temps de m'alimenter dans la prière, dans l'intimité avec mon Sauveur, dans la parole, dans ce qu'il me dit, dans son exemple parfait, dans toutes les promesses qu'il m'a données. Je veux prendre le temps aussi de regarder autour de moi en me disant, il faut que je les aime. Pas il faudrait, c'est il faut. Il faut les aimer. C'est le commandement du Seigneur. Oui, c'est impossible, on l'a déjà dit. Je ne veux pas le redire encore. Et à la fin, Jésus quand même, après tout ça, après cet exemple, après ce qu'il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Entre savoir et faire, il y a parfois un écart assez astronomique. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Je prends des exemples simples à l'école. Entre savoir une leçon par cœur sur le bout des doigts et faire les exercices qui sont liés à la leçon, mais qui ne sont pas exactement la leçon, mais faut tirer quand même de la leçon ce qu'il faut. Il y a des fois, il y a de quoi s'arracher la tête. Hein. Pourtant, ils savent la leçon sur le bout des doigts. Mais faire, c'est pas pareil. Il y a une différence entre savoir ce qu'on a lu, là, savoir que Dieu nous aime, savoir qu'il faut se laver les pieds. Alors, ça va pas être un rituel qu'on va instituer entre nous. On va se laver les pieds. Quand vous allez venir à la maison, je vous laverai pas les pieds. Bah, Jérémy dit, si, tu vas me laver les pieds. Moi, je laverai pas tes pieds. Tu peux le faire, si tu veux. Mais... il y a une grosse différence entre juste le savoir et que ça soit intégré dans notre tête, parce que toutes ces choses, on le sait, hein, pas de problème. Enfin, en tout cas, moi, je suis au courant, je le sais, je l'ai entendu déjà, ça. Je l'ai lu, je suis au courant de plein de choses dans la Bible. Je le sais, et pourtant, est-ce que je fais tout ça? Non. Voilà, on ne va pas se mentir, non. J'ai beaucoup de progrès à faire. Le savoir seul peut parfois nous rendre même coupables, si on reste dans l'inaction. Mais par contre, le faire, et Jésus le dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Le faire, ça nous rend heureux. Le Seigneur veut mettre en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui fait. Il met en nous ça. Et il veut le faire maintenant. Il ne veut pas attendre dans 6 mois, demain ou après-demain. Que notre prière, simplement, pour terminer, ça soit « Seigneur, ben, montre-moi, en tout cas, moi, je veux que ça soit ma prière, montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi que ouais, tu es allé jusqu'au bout pour moi. Tu as mis le comble à ton amour pour moi, pour mon frère. Montre-le-moi et fais-le-moi bien comprendre par une révélation toujours plus grande de ton Saint-Esprit pour que moi, à mon tour, je puisse aussi montrer aux autres la profondeur de cet amour qui est le tien en moi et que je puisse être comme toi tu es avec le Père, un avec toi et un avec mes frères. Accorde-le-moi pour que ton nom soit glorifié et pour qu'un plus grand nombre toujours soit sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni.